Vous écoutez
RMC.
Super passé de 1 minute. Très bon lundi à tous. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. C'est le signe que les relations s'arrangent entre la France et l'Algérie. Le ministre Gérald Darmanin va passer la journée à Alger pour parler de la coopération judiciaire entre les deux pays, mais aussi du cas du journaliste Christophe Glaize qui est emprisonné là-bas. Vous allez entendre dans ce journal les dernières réactions ce matin à l'affaire Patrick Bruel qui se défend de toute violence sexuelle, lui qui est accusé par une trentaine de femmes. Et on va dresser le bilan de la saison de Ligue 1 de foot au lendemain de la dernière journée. On va se pencher sur le cas de Nice qui va devoir passer par un barrage pour sauver sa peau dans l'élite.
Et donc, pour la troisième fois depuis le début de l'année, un ministre français se rend en Algérie.
Signe, oui, que les relations se sont améliorées ces derniers mois entre les deux pays. Alors cette fois, c'est le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui est sur place et qui va peut-être même rencontrer le président algérien pour évoquer la situation du journaliste français, notamment Christophe Glaize, condamné là-bas à une peine de 7 ans de prison, hein, Cyprien Pézril.
Oui, Gérald Darmanin pourrait être reçu par le président algérien. Un rendez-vous stratégique s'il en est, puisqu'Abdelmajid Tebboune a le pouvoir de gracier Christophe Glaize, comme il l'a déjà fait pour Boualem Sansal. Une grâce, c'est désormais le seul moyen pour le journaliste français d'être libéré avant la fin de sa peine. Il a renoncé en effet à ce pourvoir en cassation. L'espoir de son retour est réel pour le garde des Sceaux, mais le meilleur moyen de le libérer est de ne pas trop parler, prévient le ministère de la Justice. Au-delà du sort de Christophe Glaize, aujourd'hui, il sera aussi question de coopération judiciaire, notamment pour lutter contre la criminalité organisée, mieux ciblée par exemple des chefs de la DZ Mafia. Bref, relancer la machine entre Paris et Alger, après des mois de brouille, entretenue en particulier par Bruno Retailleau lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Fin avril, Emmanuel Macron fustigeait, je cite, les maboules qui veulent se fâcher avec l'Algérie.
Alors pendant ce temps, en France, le Sénat se lancera à partir d'aujourd'hui dans l'examen du projet de loi Riposte. Texte qui balaye toutes les questions de sécurité. Il a été pensé par l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et il est désormais porté par l'actuel ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Alors si on résume, Thomas Becker, du service politique à RMC, il prévoit de durcir les sanctions contre tout ce qui est rave party, rodéo urbain, tir de mortier et consommation de drogue.
Oui, avec un doublement de l'amende de 250 à 500 euros avec en complément une suspension du permis de conduire, même si le flagrant délit n'est pas constaté au volant. Face à la délinquance du quotidien, le ministre Laurent Nunez prône une tolérance zéro, amende forfaitaire sur le champ en cas de participation à des rave parties ou des rodéos, peine de prison pour les organisateurs. Face à l'explosion de l'usage du protoxyde d'azote en gaz hilarant, le texte prévoit 200 euros d'amende en cas de flagrant délit et 6 mois d'emprisonnement pour la vente illégale. Au Sénat, une majorité devrait se dégagé, mais une sénatrice socialiste s'inquiète, je cite, de l'affaiblissement du droit, un argument qui animera les futurs débats à l'Assemblée, où le chemin vers une adoption reste beaucoup plus incertain.
Il y a un nouveau procès de narcotrafiquant qui commence aujourd'hui à Marseille. Il se passe sous très haute sécurité. Il est même qualifié de sensible par l'administration pénitentiaire. 20 prévenus jugés pour trafic de stupéfiants, notamment un certain Félix Bingui, chef présumé de ce qu'on appelle le clan Yoda, à savoir les rivaux de la DZ Mafia. Il avait été arrêté il y a 2 ans au Maroc. Nouvelle réaction ce matin. Dans l'affaire Patrick Bruel, le chanteur accusé de violence sexuelle par une trentaine de femmes, bien qu'il s'en défende, jamais je n'ai drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit. Voilà ce qu'écrit le chanteur dans un message qui a été posté dans la soirée sur le réseau social Instagram. Alors l'affaire prend une toute autre tournure depuis les accusations vendredi de l'animatrice Flavie Flamand. C'est ce qu'estime ce matin sur RMC Cécile Olivier. Écoutez-la, elle est journaliste au magazine Elle.
Qu'il y ait une femme aussi connue, aussi populaire que Flavie Flamand qui accuse à visage découvert, ça donne une autre dimension à l'affaire, évidemment. Et nous, les témoins que nous avons interrogés, nous ont appelés en disant qu'elles se sentaient quelque part à l'abri, confortées par cette prise de parole. En fait, elles se disent « on va nous croire ». Il n'y a pas que de la parole contre parole. Je pense notamment à notre témoin du Canada qui dénonce une agression sexuelle, qui a fait un signalement à la police de Montréal en 2017, qui en a parlé à sa hiérarchie, qui en avait même parlé à l'attaché de presse de Patrick Bruel, qui a fait un signalement à la médecine du travail. Et donc, sur les 30 témoignages, il n'y a pas que de la parole contre parole.
Tiens, cette question ce matin, l'histoire va-t-elle se répéter? Vous avez certainement vu passer durant le week-end ces scènes de tension partout en France devant des boutiques de la marque Swatch qui mettait en vente des montres d'une collection spéciale en collaboration avec la marque de luxe Audemars Piguet. Énormément de monde à cette occasion, des files d'attente ont tourné carrément aux échauffourées, la police a dû intervenir, certaines boutiques ont dû fermer dans l'urgence samedi. Elles étaient encore fermées hier, on était dimanche. Et alors à Lyon, eh bien, notre correspondant RMC, Vincent Chevalier, nous dit que certains campent toujours devant la boutique Swatch qui doit rouvrir là dans la matinée.
Assis sur sa chaise de camping devant le magasin, Mohamed ne s'en cache pas.
Bon, moi je suis un reseller, donc je viens pour faire de l'argent.
Il a patienté plus de 24 heures ce week-end pour tenter d'avoir une montre, sans succès, mais il ne désespère pas.
Je suis étudiant et franchement, l'argent c'est un peu important dans notre période. 1000 euros en attendant 24 heures dehors, moi je dis pas non. Hein.
Quelques chaises plus loin, Abdel n'est pas là non plus pour l'amour de l'horlogerie. Lui aussi compte bien faire des bénéfices importants sur la revente.
Moi personnellement, la montre, celle que je voulais, elle a 400 et... minimum 400, je voulais prendre aussi. Donc à la revente, 800 euros.
Sur certains sites de e-commerce, des modèles sont même mis en vente à 1700, 2000, voire 3500 euros ou plus, ce qui ne surprend pas du tout Victor.
Audemars Piguet, c'est vraiment une marque de montre inatteignable. Il faut vraiment avoir bien réussi sa vie pour l'avoir. Vraiment, vraiment. Du coup, cette collaboration, elle fait un peu rêver tout le monde. Moi, c'est cette collaboration-là, elle me fait rêver.
Pour prévenir tout risque de débordement, la police a prévu des rondes devant la boutique ce matin. Elle doit ouvrir à 10h, sans certitude que le nouveau modèle sera bien mis en vente.
C'est comme si le temps s'était arrêté hier soir à Nantes, à Nice aussi, avec des envahissements de terrain de la part des supporters en colère dans ces deux villes lors de la dernière journée du championnat de Ligue 1 en football. Le match n'a même pas repris à Nantes, qui s'expose à des sanctions en plus de la relégation en Ligue 2. Et Nice devra passer par un barrage pour sauver sa peau dans l'élite. Ce sera contre Saint-Etienne la semaine prochaine. Et dans ce contexte-là, le président niçois Jean-Pierre Rivère ne fait plus de la finale de Coupe de France une priorité.
Est-ce que les joueurs vont relever la tête? Est-ce qu'on va arriver à remobiliser tout le monde de la meilleure des façons? Le contexte, vous l'avez vu, n'est pas facile, n'est pas bon. On doit se dire, il faut être unis. On verra comment on joue, si c'est à huis clos, si c'est pas à huis clos. Moi, ce qui m'importe maintenant, c'est d'essayer de gagner ces deux matchs. Il n'y a que ça qui est important. C'est jamais accessoire de jouer une finale de Coupe de France, mais la priorité, on le sait, n'est plus là. Ça reste une finale, on va la jouer, bien évidemment. Mais le plus important, c'est de s'en sortir et de rester en Ligue 1. C'est la seule ambition qu'on peut avoir.
C'est Lille qui termine troisième, qualifié directement pour la Ligue des Champions. Lyon devra passer par un barrage quatrième. Marseille cinquième va se consoler avec la Ligue Europa. Et Rennes est en Conférence League. C'est une soirée, tiens, aussi en football, pleine d'émotions. En Espagne, à Madrid, où Antoine Griezmann a officiellement fait ses adieux à l'Atlético. Écoutez, il a été ovationné, Antoine Griezmann, après 10 saisons à l'Atlético et avant de s'envoler pour les États-Unis où il va poursuivre sa carrière. Et puis alors, c'est raté pour Victor Wembanyama, on en a beaucoup parlé, il sera pas MVP, il sera pas meilleur joueur de la saison de NBA en basket. Le titre revient pour la deuxième année d'affilée au Canadien Gilgeous Alexander d'Oklahoma. Tiens, équipe que les Spurs de Wemby, justement, vont affronter à partir d'aujourd'hui en finale de conférence Ouest.
C'était le journal de Quentin Vinet.